Mouni, je rappelle que vous êtes avocate. Peut-être une première réaction à l'éditorial.
Écoutez, c'est vrai que la réforme de 2004 a été emblématique, mais 20 ans plus tard, on a eu le temps de constater les nombreux dysfonctionnements. D'abord, les mauvaises applications par la jurisprudence des orientations de la Moudouana de 2004 et des orientations royales qui l'ont accompagnée. On constate quand même un échec de la jurisprudence à retraduire ces orientations-là. Et le deuxième constat, c'est celui des lacunes, donc vraiment qui viennent pour le coup du texte lui-même, qui ne parvient pas à assurer d'abord la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, ni de l'égalité homme-femme qui est instaurée et érigée en principe dans la Constitution de 2011. Ce qu'il y a eu pendant ces 20 ans, c'est effectivement justement la Constitution de 2011, donc qui est postérieure à 2004 et qui nécessite donc une mise à jour de la Moudouana par rapport aux principes qui sont énoncés dans cette Constitution. Cette mise à jour n'a pas encore eu lieu 13 ans plus tard et on espère donc que ce projet de réforme va effectivement réaliser cette mise à jour nécessaire.
Youssef Benrad, consultante genre, votre commentaire également par rapport à l'éditorial qu'on a écouté.
Alors, par rapport à l'édito qu'on a écouté, c'est vrai que les acquis pour ça, personne ne peut nier que les acquis en ce qui concerne la Moudouana ou la Moudouana de 2004 sont des acquis qui sont importants par rapport à la situation des femmes au Maroc et par rapport aux familles au Maroc. Sauf qu'il est important aussi de noter qu'entre 2004 et aujourd'hui, une évolution importante de la société marocaine s'est passée. Nous avons changé nos pratiques et on ne peut pas nier le fait qu'aujourd'hui, le Maroc n'est plus le même de 2004. Il y a eu certes la Moudouana de 2011, la Constitution de 2011. Et donc aujourd'hui, la Moudouana qui est venue auparavant est non constitutionnelle. Et donc toutes les lois doivent suivre la Constitution de 2011. Alors je vois une grimace quand je dis non constitutionnelle.
Non, pas du tout. En fait, le principe de non constitutionnalité ou d'inconstitutionnalité n'a pas été reconnu. Donc à partir de là, voilà, c'est presque une cause perdue, si vous voulez. Mais bon, allez-y.
Alors la Constitution de 2011, il faut citer qu'elle est venue avec un paradigme qui est différent. Et elle a pris, que ce soit dans sa préface, que ce soit dans l'article 19, l'égalité qui est aujourd'hui soulignée au niveau de la Constitution, c'est-à-dire que les lois doivent suivre. En dehors de cela, en termes de pratique de la société marocaine, la femme a évolué et les femmes ont évolué au sein de la société marocaine. Ils ont aujourd'hui plus d'acquis. Ils sont aujourd'hui dans des postes de responsabilité qui sont encore plus grandes. Ils ont atteint des acquis qui sont importants, ainsi que la société marocaine. Aujourd'hui, je ne parle pas des dits, c'est-à-dire de ce qu'on exprime, mais je parle en sorte de pratique. Au niveau des pratiques de la société marocaine, on change. On est en train de changer. Et c'est-à-dire se mettre devant une position ou cacher ce changement ou négliger ce changement de la société marocaine au niveau des pratiques quotidiennes des Marocains et des Marocaines chaque jour, c'est laisser la loi derrière et c'est aussi avoir une législation qui change selon le passé de la société et qui ne réglemente pas l'avenir de la société. C'est une loi qui va prendre, si aujourd'hui le nouveau projet de la Moudouana passe, ça va prendre justement, ça va rester là pendant les 20 ans à venir. Et pendant les 20 ans à venir, c'est quelle société que cette Moudouana va justement réglementer. Ça ne sera pas certainement la société d'aujourd'hui et ça sera encore moins la société d'hier, de 2004 ou avant 2004.
Mohamed Talal Ahlou, économiste.
Effectivement, le discours royal a souligné que nous avons eu, suite à cette Moudouana, des dérives, c'est le terme utilisé, n'hiraf. Et donc, effectivement, ces dérives sont palpables. Certaines dérives sont catastrophiques constituent le germe de l'éclatement de la société marocaine, comme l'explosion des taux des divorces avec un plus 400% suite à la Moudouana, la baisse des mariages d'à peu près une quarantaine de pourcents, l'explosion du célibat de 42 à 70%, l'augmentation fulgurante de l'âge moyen du mariage qui passe maintenant à la barre de la trentaine pour les hommes. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire entre 15 ans et 30 ans? Est-ce qu'ils vont contempler l'évolution sociale ou bien faire autre chose? Donc effectivement, nous avons les familles monoparentales explosent, etc., etc. Donc effectivement, nous avons des conséquences catastrophiques qui requièrent un certain nombre de changements. Parmi les changements qu'on attend de cette Mudawana, on peut espérer par exemple le retour à la facilitation de la polygamie, vu qu'on a à peu près 150 000 femmes en plus au Maroc que des hommes. Et donc, on attend effectivement l'annulation de cette question de l'Qadd wa Si'aya. On attend également le maintien ou la consolidation de la valeur de la famille, l'interdiction plus dure des crimes de zina, c'est-à-dire de relations hors mariage. Permettre aux femmes pubères qui ont atteint l'âge de la puberté et qui ont eu une demande en mariage qui respecte le cadre de la société, sa religion, les connaissances des deux familles, de pouvoir se marier, comme cela se fait dans un certain nombre de pays, comme ça se fait en Norvège, au Canada, en Allemagne, etc., bien avant 18 ans. Et surtout, et j'insiste beaucoup sur ça parce que l'aspect économique joue beaucoup, il ne faut pas oublier que le 8 mars, ça nous vient d'où en fait? Ça vient de manifestations dans lesquelles les femmes ont demandé à travailler moins. Et aujourd'hui, les mouvements féministes veulent permettre à la femme de travailler plus. Donc en fait, on a trahi un petit peu le contexte de ces manifestations. Et en réalité, ce travail plus, c'est un souhait capitaliste majeur. Pourquoi? Parce qu'avoir deux fois plus de consommateurs et deux fois plus de producteurs, ça arrange beaucoup les corporations multinationales. C'est ce qui fait que, par exemple, des fonds comme ceux qui sont affiliés à George Soros ont des connivences et beaucoup de soutien à coût de millions de dollars avec les associations féministes. Donc nous, en fait, ce qu'on espère, c'est que la société marocaine permette à la femme d'avoir le choix de ne pas travailler, de faire moins, de galérer moins, d'avoir plus de temps pour elle, pour sa famille, pour sa petite et sa grande famille, pour ses enfants, pour son mari.
Pendant que l'homme travaille.
Ça, c'est la règle, ça, c'est la base. Mais bien sûr, il y a des exceptions. Quand vous gagnez 1500 dirhams, c'est un peu compliqué. Mais ça doit rester la règle. Et quand on gagne 1500 dirhams, il faudrait que l'État puisse permettre à la femme. Aujourd'hui, on donne des primes à l'aramil, celles qui sont veuves. Mais pourquoi on ne donnerait pas des primes à toutes les femmes? Au nom de quoi? Enfin, qu'est-ce qui empêche de faire ça
pour permettre... Au nom de la rigueur budgétaire, par exemple.
Au nom de la rigueur budgétaire. Par contre, quand on veut faire d'autres manifestations nationales et internationales, on trouve les budgets. Non, si la rigueur budgétaire devrait avoir des priorités, eh bien, la protection de la femme et de la famille devrait être l'une des premières priorités.
Rizal Mamouni, peut-être revenir sur ce premier point et vous faire réagir sur ce que vient de dire Mohamed Talal-Lahlou par rapport à, justement, la polygamie. On pensait cette histoire réglée avec la Mudawana de 2004 qui a mis véritablement des barrières relativement importantes à l'homme, justement, pour se marier avec la deuxième, la troisième, la quatrième femme éventuellement. D'ailleurs, le taux de polygamie a fortement et drastiquement baissé depuis. Est-ce que ça veut dire que c'est un vrai problème que nous avons réglé, ou est-ce que aujourd'hui vous comprenez qu'à l'heure de la réforme de la Mudawana, ça vous inquiète d'entendre, d'écouter ce genre de discours qui voudrait remettre sur le tapis éventuellement la possibilité de se marier avec plusieurs femmes?
Oui, c'est Talal Lahlou, mais beaucoup, beaucoup de choses sur le dos des femmes, notamment la crise du mariage qu'on est en train de voir. Mais crise du mariage ne veut pas dire crise de la famille. Et pour se concentrer sur le point de la polygamie, la Mudawana de 2004 ne l'a pas éradiquée pour deux raisons. D'abord, beaucoup d'hommes arrivent à contourner la règle selon laquelle la première épouse doit être d'accord par des mécanismes de notification ou des choses très procédurières. Donc ils arrivent à contourner cette règle. Et d'autre part, même quand ils arrivent à obtenir le consentement de la première épouse, souvent ce consentement est arraché, il n'est pas du tout éclairé. Il est donné parce qu'il y a des pressions sociales, économiques, psychologiques qui sont exercées sur cette première épouse pour qu'elle donne son consentement. Même si on se félicite que ça ait drastiquement baissé, parce que c'est une règle qui porte atteinte à la dignité des femmes et qui n'est pas du tout réciproque, puisque c'est un droit qui est donné uniquement à l'homme et pas du tout à la femme. Mais moi,
c'est la loi divine, en l'occurrence.
Parlons-en de cette loi divine qui est effectivement dans le Coran, donc le seul texte sacré dans le droit islamique qui a sa propre hiérarchie des normes, et donc le Coran est un peu la constitution de ce système juridique, parlons-en. Moi, quand je lis ce verset, je lis à la fin de ce verset, donc effectivement, Dieu donne le droit aux hommes, enfin, commence par dire qu'ils ont droit à 1, 2, 3, 4 épouses, si ils sont équitables, et il dit tout de suite après, mais vous ne serez jamais équitables. وَلَنْ تَعْدِلُوا وَلَوْ حَرَسْتُمْ. Une double négation. Quand on fait un peu de maths, c'est comme si on mettait une équation, puis ensuite on multiplie par 0.
Vous pouvez terminer le verset, parce que là vous la coupez en deux.
Vous allez le faire ?
Non, mais je vous laisse le faire, parce que vous y connaissez encore.
Je vous laisserai pas le monopole de la lecture de ce texte. J'ai ma propre connaissance de ce texte. J'ai ce que m'a appris ma grand-mère, mes valeurs familiales.
Non, le monopole, il est chez les savants, pas chez nous. Conseil supérieur de l'élément, on a un pays dans lequel on a une institution qui s'appelle Conseil supérieur de l'élément. C'est lui qui a le monopole.
Une juste interprétation de règles qui paraissent très claires dans le Coran ont abouti à ôter aux femmes des droits que le Coran lui-même leur donne. Moi, je ne vois pas, je ne sais pas ce que M. Talalhlou ou les savants dont il parle ne comprennent pas, en fait, dans cette règle qui est limpide pour moi. Et quand Dieu nous dit vous ne serez pas équitable, on arrive avec une moudouana ou des savants qui nous disent non, mais attendez, on va mettre un savant ou un juge qui va étudier votre dossier et puis il va finir par dire peut-être que vous serez équitable. Donc quelque chose qui est contraire à la parole divine. Et en fait, et c'est ce que je dis, donc ces 7 siècles là ont abouti à ôter aux femmes des droits que le Coran leur donne, et ont abouti à une situation où on arrive à qui est complètement contraire à l'esprit de cette religion, qui est une des premières civilisations qui est venue, qui était avant-gardiste et qui est venue reconnaître les femmes comme les égales des hommes en termes de responsabilité, en tout cas, et en termes de droits.
Yousra Al-Berad, consultant de genre, peut-être une réaction sur justement cette question un peu brûlante et glissante, j'ai envie de dire, de la polygamie.
Oui. Alors, aussi membre de la Fédération des Ligues des Droits des Femmes, qui est une association des droits des femmes qui milite au Maroc et 100% marocaine indépendante et qui milite depuis 1993 et qui se base justement sur la réalité des femmes et le vécu des femmes avec des centres de proximité partout au Maroc. Et la réalité des femmes et la proximité de travail avec ces femmes, justement, ont remonté qu'aujourd'hui, nous avons changé. Et qu'aujourd'hui, les discriminations, elles sont très lourdes. Que ce soit au niveau de la polygamie, que ce soit au niveau des autres choses. D'ailleurs, quand on parle de savants, les personnes qui sont en connaissance ou de spécialité sur certaines questions, sur autres questions, sur la question religieuse, il y a les médahib qui sont vraiment moutadidine, c'est-à-dire qui sont diversifiés. Il n'y a pas qu'un seul médahib à suivre, et encore plus dans le même, il y a aussi des lectures qui sont diversifiées. Quand on parle d'une sourate ou d'une ayat, il y a Asbab al-Nuzul. Et Asbab al-Nuzul qui était dans un contexte de guerre où il y avait l'yatama bzef, ou l'hirs al-yatama, c'est dans ce contexte qu'il y avait eu la polygamie qui a donné droit si on avait peur on a le droit de se marier leur maman justement pour garantir garantir le fait de prise en charge de ces enfants-là pendant un long moment.
Vous êtes en train de nous dire que la polygamie, elle est valable uniquement pour aujourd'hui, par exemple, les femmes qui seraient veuves et qui auraient des enfants.
Alors, ça, je ne parle pas d'actuellement.
Non, mais je sais, mais on pourrait vous comprendre dans ce sens-là, parce qu'il y avait des veuves à l'époque du prophète. Non, mais je ne vous fais pas dire, je vous pose la question. Non, je vous pose la question. Il y avait des veuves du temps du prophète sur lui, sur la bénédiction. Il y a encore, peut-être encore même plus de veuves aujourd'hui. Comme elles sont dans la même situation, Asbab Nuzul, de votre prisme et de votre compréhension, s'applique aux deux de la même manière.
Alors, c'est Asbab Nuzul qui était expliqué par certains savants. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas savante dans les questions religieuses. Mais je me réfère à des personnes qui sont chercheurs, qui sont connaisseurs, femmes et hommes, sur la thématique. Et justement, chaque ayat est Asbab al-Nuzul. Et Asbab al-Nuzul de la ayat qui parle de la polygamie était très claire, et c'était dans un contexte de guerre. aujourd'hui, on n'est plus dans le même contexte. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le même contexte. Aujourd'hui, il y a aussi une question qui était évoquée dans le débat tout à l'heure, c'est sur l'histoire du 8 mars. D'ailleurs, aujourd'hui, on est dans la journée internationale des droits des femmes. Et cette journée, le 8 mars, est justement venue pour nous faire rappeler les combats des féministes à travers le monde et du mouvement pour les droits humains des femmes depuis des années, celles qui militent toujours et celles qui militeront toujours. Et je tiendrai aussi à rappeler et à donner tout mon soutien aux femmes palestiniennes qui aujourd'hui sont dans une situation alarmante et pour le cessez-le-feu en Palestine. Alors, dans le contexte de 8 mars, justement, il ne faut pas lui faire porter ce qu'il ne porte pas. C'était l'égalité salariale, c'était le droit au vote, c'était des droits qui étaient concrets et qui étaient des revendications concrètes. Et la base du mouvement féministe ou du mouvement des droits humains des femmes et des hommes d'ailleurs, se base sur les mains et non pas sur la productivité. Et on considère que les systèmes de productivité, c'est des systèmes d'oppression. Que ce soit le capitalisme, que ce soit le socialisme avec Marx qui reconnaît les femmes comme une armée de réserve, c'est aussi des systèmes qui sont basés sur la productivité et qui sont totalement dans l'oppression et des systèmes d'oppression envers les femmes. Donc pour nous, ne pas faire porter au mouvement féministe des choses qui ne portent pas, mais l'intérêt, c'est l'humain de l'intérieur. Aussi, rester dans le dogme de Siaya, ou rester dans le dogme de donation, d'Yel Sanati, ou la d'Yel Khir, ou la d'Yel Ihsan, ou beaucoup de termes, c'est des notions qui sont tout à fait en contradiction avec la capacitisation de l'humain au sein de la société. Je parle de l'humain. Et les femmes, c'est aujourd'hui important, rester dans ce dogme de donation, de donner, sans pour autant être dans cette philosophie de capacitisation et d'empowerment pour pouvoir justement, on est là, on est présente. Notre travail de care, de soins à la maison, c'est un travail à prendre en considération. Et c'est tout un système économique que les femmes ont instauré et qui prennent en charge avec une lourde pression depuis des années. Le travail avec des triples journées, des doubles journées de travail, ouais. C'est à prendre en considération. Donc on n'attend pas de sadaqa comme étant des femmes, que ce soit avec des procédures de sadaqa, mais on attend de reconnaître, de visibiliser et de rémunérer notre travail au quotidien.
Mohamed Talal Lahlouf, économiste, je reviens vers vous pour un petit peu vous laisser l'occasion de réagir, parce que tout à l'heure, vous vouliez réagir aux propos de Rizane Mamouni par rapport à la polygamie. Vous aviez des points de désaccord.
Énormément, et je vais les clarifier dans ce qui suit. D'abord, on a un problème de référentiel, parce que j'ai l'impression que certaines personnes ne mettent pas l'islam et la charia au-dessus des lois internationales ou au-dessus des lois qui sont votées et changées toutes les 10-20 années. Donc j'aimerais savoir, est-ce que on est tous d'accord déjà que l'islam est au-dessus de tout cela, d'abord? Et est-ce que...
De toute façon, c'est un principe constitutionnel.
Constitutionnel, mais pas toujours clair chez tout le monde. Et donc, j'aimerais avoir l'affirmative de tout le monde sur ça. Et ensuite, est-ce qu'on considère tous que le Coran est totalement juste et équitable? Parce que quand on entend que le fait de donner le droit de se marier à 4 femmes est une atteinte à la dignité, ça, c'est une... on remet en cause le Coran, en réalité, parce que le Coran est juste et équitable. Donc, si on accuse la révélation de porter atteinte à la dignité, c'est une accusation vis-à-vis de Dieu, direct. Donc, est-ce que c'est comme ça, ou bien il faut avoir une autre approche? Et quand on pose la question pourquoi la femme n'a pas ce droit d'avoir 4 hommes, c'est, encore une fois, une remise en cause de la révélation. Donc, je ne mets pas beaucoup de choses sur le dos des femmes, je mets beaucoup de choses sur les incompréhensions philosophiques et épistémologiques des personnes qui adoptent ces principes. Deuxièmement...
Qui porte atteinte à
tout n'est pas sujet d'interprétation. Il y a des réalités, et j'y arrive.
Il y a des règles.
D'abord, Le Coran n'est pas le seul texte sacré, même la parole du prophète, la sunna qui est authentique, pas celle qui n'est pas authentique, est également...
Le Coran lui-même dit que c'est un homme et que, contrairement au christianisme, on ne le considère pas comme le fils de Dieu ou autre chose. C'est ce que j'ai appris. Le seul texte sacré, c'est le Coran.
Très bien.
Le reste, c'est des textes qui viennent d'être humains.
On va le laisser finir un petit peu le raisonnement.
On parle du messager, pas du contenu. C'est différent.
Alors,
pourquoi j'ai demandé de compléter le verset ? Parce que là, j'ai la première page de Sourate Nissa devant moi. Et contrairement à ce qu'a dit Madame Rizlan, le l'antastatiyo antadilu ne vient pas après fankihu matabalakum min nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ce qui vient après ce verset, c'est pour ça que je vous ai demandé de le compléter, mais comme vous le saviez pas, je le ferai. Fa in khiftum alla tadilu fa wahida. Donc pour ceux qui craignent de ne pas être juste, ils peuvent se marier à une. Mais comme tous les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont mariés à plusieurs, c'est une minorité ceux qui ne se mariaient pas à plusieurs. Dans l'autre verset que vous avez cité, il faut compléter le verset. Qu'est-ce que dit la fin du verset? Parce qu'on ne fait pas waynul lil musallin. La suite du verset, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, fala tamilu kullal mail, ça veut dire que vous pouvez le faire, mais ne soyez pas injuste. De manière excessive. Elle ne dit pas falat amilo, parce que n'importe quelle personne, même vis-à-vis de nos enfants, nous ne sommes pas juste à 100%. Nous sommes juste à 95, 98, 97, 80, 70. Donc,
on va vraiment finir le raisonnement.
Il va réglementer toute une société, c'est-à-dire la loi,
je vous donnerai la parole et vous allez déconstruire tout l'argumentaire, si vous voulez, de Mohamed Talal Lahlou, mais juste qu'on puisse l'entendre, l'écouter, le comprendre, et puis après, vous êtes libre d'être en désaccord, bien évidemment. Mohamed Talal Lahlou.
Donc, du coup, le Coran n'est pas compris par Mme Rizlan ou par moi-même, il est compris par les savants, par les ulama. Pourquoi ? Parce que le Coran lui-même nous dit « Fas'alou alad dhikrin kuntum la ta'lamoun ». Et donc, c'est un principe fondamental. Quand on a besoin d'une affaire d'une avocate d'affaires, on va voir Madame Rizlan. Quand on a besoin d'une avocate de la famille, on ne va pas voir Madame Rizlan, on va voir une avocate de la famille. Quand on a besoin d'un médecin, on va voir un médecin. Un cardio, on va voir un cardio. Par contre, tout le monde peut lire le Coran. Non, tout le monde peut lire le Coran pour adorer Dieu. Mais tout ce qui est istinbat, l'ahkam et ijtihad, c'est le travail des savants qui ont étudié 20 ans, 30 ans, 40 ans, et donc qui ont roulé leur bosse dans ce texte. Ensuite, quand j'entends « aucune femme ne peut donner son avis », ça c'est les propos de Mme Rizlan. Aucun savant n'a dit qu'aucune femme ne peut donner son avis.
Elle a bon dos, Mme Rizlan, aujourd'hui, dis donc.
Non, parce qu'en fait, je vais vous proposer quelque chose tout à l'heure, je pense que vous allez aimer. L'imam al-Bukhari, il avait plusieurs chouyurs qui étaient des femmes. Il a pris le hadith de femmes. Dans les isnades de hadith, il y a des femmes. Ensuite, quand j'entends que la Ligue de défense des femmes est indépendante, j'aimerais juste demander, est-ce que vous pouvez nous dire ici, sur ce plateau, que la Ligue de défense féminine n'a jamais eu de financement venant d'Europe? Si oui, tant mieux. Sinon, bah, dites-le nous, comme ça on sait qu'elle n'est pas totalement...
Et le financement de Qatar alors?
C'est-à-dire ça si va chez qui le financement de Qatar?
La manipulation de débat.
Le financement de Qatar, je ne connais pas qui le prend.
C'est-à-dire des accusations carrément.
Je vous assure que vous aurez le temps. Laissez-le juste finir. Mohamed Al-Lahlou.
Donc du coup, j'aimerais bien qu'elle nous dise, est-ce que la Ligue de défense féminine n'a jamais reçu de financement européen? Comme ça, on sait est-ce qu'elle est indépendante ou pas. Pour le Qatar, je ne sais pas de qui vous parlez, de quoi vous parlez, ni de qui a reçu des financements de Qatar. Alors, ensuite, quand on dit il y a des madahib, oui, effectivement, mais dans au Maroc, le madhab officiel, c'est l'école malikite. Aucun madhab ne dit ce que disent les gentilles dames sur cette table. Aucun madhab ne le dit. Donc, comme ça, on est clair sur ça.
Franchement, on ne peut pas laisser passer, c'est à la limite de l'insulte, et depuis tout à l'heure, on est dans la provocation. On n'est pas des gentilles dames, des gentilles dadames, d'accord?
Vous êtes des méchantes dames.
Non, on est des experts, c'est des invités pourtant. Aujourd'hui.
Je suis un gentilhomme, elles sont des gentilles dames, c'est quoi le problème? Quand on dit que c'est le contexte de la guerre, donc est-ce que ce n'est plus valable? Enfin, est-ce qu'on va dire que le Coran n'est plus valable aujourd'hui? Est-ce que la charia n'est plus valable? Les sahabas sont mariés à plusieurs femmes, même hors contexte de la guerre. Les rois marocains de toutes les générations ont eu, un certain nombre d'entre eux, a eu plusieurs épouses. Donc, si c'est OK dans la guerre, vous avez vu quand vous lui avez posé « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» des veuves, elle ne vous a pas répondu. Parce qu'une féministe ne peut pas dire « Je suis pour la polygamie ». Parce que les fonds et l'avis général du féminisme ne permet pas de dire cela, même si l'argument que vous avez posé, Simédi, est très pertinent.
Si j'ai répondu par l'empowerment des femmes, c'est-à-dire...
Non, est-ce que vous êtes pour... Non, mais je vais terminer. Ouais, ensuite,
Et je vous donne vraiment la parole.
Voilà. Ensuite, quand on dit « Asbab Nuzul », moi je vais poser une question, vu que vous connaissez en Soulfir, est-ce que « L'Ibra bi'umoumi » Est-ce que dans le Coran, les savants de toutes les écoles de jurisprudence considèrent la prééminence sur la généralité du propos ou le contexte de révélation ? J'aimerais bien avoir une réponse parce qu'en fait, c'est l'inverse de ce que madame a dit. Et je vais terminer par ça. C'est qu'aujourd'hui, on a quand même... D'abord, je suis tout seul et il y a trois gentilles dames sur le plateau. Et je suis un gentil homme, je l'espère. Donc ce n'est pas une insulte, c'est par respect, au contraire. Sinon, dites-moi la manière avec laquelle vous souhaitez que je vous appelle,
mesdames,
je vous appellerai.
Ouais, mesdames, ce serait
bien. Mesdames, il n'y a pas de problème, mesdames. Et donc, du coup, mesdames sont trois personnes, je suis tout seul. Donc, ce que je propose, parce qu'il y a un débit énorme, enfin, il y a énormément d'incohérences qui sont dites à la minute. Donc, ce que je propose, c'est qu'on fasse open mic. On ouvre les mics, on ne fait plus les khutbas. On ne donne plus 10 minutes chacun, il fait une khutbah, il ne répond pas aux questions, il pose d'autres problématiques. On ouvre le mic. Et on prend les questions une à une. Enfin, si ça les intéresse, on fait open mic. Comme ça, c'est un débat dynamique, enrichissant pour nous et pour l'audience. Et ça pourra permettre peut-être de construire une chose ou deux. Mais au final, sur la polygamie, c'est un épiphénomène. On a 658 cas par an. De quoi on parle? On a 150 000 femmes de plus que les hommes au Maroc. Non, le double, 300 000. On a 300 000 femmes de plus que les hommes au Maroc. Madame n'a pas répondu à votre objection. Et on a 658 qui sont mariés en polygamie. On fait quoi des 299 000 hein 362
mais peut-être 342 Peut-être qu'elles n'ont même pas envie de se marier.
Ça, c'est une possibilité, mais là on leur ferme les portes.
Yousra Elbalad, consultante genre. Peut-être maintenant, vous avez tout le temps pour déconstruire point par point. Ouais, non, mais je ne vais quand même pas redire. Voilà, c'est trop long. Je l'ai dit tout à l'heure.
Est-ce que ma proposition les intéresse déjà, d'ouvrir le mic?
Non, donc je vous laisserai répondre à la polygamie avant d'embrayer sur un autre sujet. Également, Rizal Mamouni, pour clôturer ce volet polygamie. D'abord, Yousra Elbalad.
Ok. Alors, merci d'avoir rappelé que justement, on est dans un format et que justement, se permettre de poser des questions aux personnes qui sont assistantes en dehors de l'animateur, c'est en soi des formes de débat justement qu'on doit respecter si on veut ouvrir le mic. Et bien sûr que l'ouverture de mic, on est tout à fait in à n'importe quel moment. Le débat public, c'est ça. Et l'ouverture de l'esprit au débat public, c'est justement ça. Et c'est ce qui fait avancer les sociétés. Et justement, je pense que le débat dépasse la polygamie ou non, mais on est dans un débat de paradigme derrière. Et je respecte carrément le mot « on se base sur quel référentiel ». Je pense que la religion, c'est une spiritualité. Et nos pratiques, c'est autre chose. Et je pense également et réellement qu'aujourd'hui, il faut se baser sur les pratiques, ce qu'on est en train de faire. On va donner une réglementation qui va passer pour les 20 ans à venir. On ne me remet pas en question pour ne pas nous faire dire ce qu'on n'a pas dit. En tous les cas, moi, ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas remis en question Dieu parce que chacun ou personne d'entre nous n'est le porte-parole de Dieu. C'est-à-dire remettre en question ou ne pas remettre en question les propos de Dieu, personne n'a le droit de les expliquer et avoir le monopole d'explication. Mais même les savants, ils ont des référentiels qui sont propres à eux. C'est-à-dire, au sein du Malikite, il y a Asma al-Marabat, il y a Farid al-Nani, qui font une jurisprudence, un ijtihad qui est énorme. Au temps même des sahaba, il y avait de l'ijtihad. Fa'ayat qat'iyya. C'est-à-dire même pas où il y avait sur des ayats, ou même pas il y avait le débat. Est-ce que ça voulait dire ça ou ça voulait dire ça? C'était des ayats qat'iyya.
Mais Yousra Elbalad,
et pourtant, il y avait l'ijtihad. Pourquoi aujourd'hui, c'est-à-dire, on se base... Juste quand il s'agit de droits des humains, je ne vais même pas parler des droits des femmes, spécifiquement. Quand il s'agit de droits des humains et des libertés des humains, qu'on veut réellement rester dans des explications et dans la manipulation du sentiment religieux du Marocain. Dans d'autres thématiques, ouais. Je suis désolée, je continue juste l'idée. Dans d'autres thématiques, comme par exemple le riba, dans d'autres thématiques comme tout ce qui se rapporte aux finances, dans d'autres thématiques, on n'a pas de mal à avoir une jurisprudence. Mmh. C'est juste les questions qui se rapportent aux droits humains, et surtout aux droits humains des femmes, mmh. où on se dit non. Et il y avait de l'ijtihad sur Sourate Qataïa, notamment Qataliyat Sariqa, et aujourd'hui, ça n'existe plus, et tout le monde est d'accord, et ça ne remet pas en question les paroles de Dieu.
Alors, est-ce que je peux juste vous demander comment est-ce que vous vous positionnez par rapport au discours royal à l'occasion du 23e anniversaire de la fête du trône, dans lequel le roi Mohammed VI disait « Je ne peux autoriser ce que Dieu a prohibé, ni interdire ce que le Très-Haut a autorisé, en particulier sur les points encadrés par des textes coraniques formels ». Je reviens à l'ayat al-Qataïa dont vous parliez.
Exactement. Et j'ai bien souligné le mot « Qataïa ». Parce que dans le mot Qataïa, il y a une différence et ça fait une réponse de tout à l'heure d'une question très, très claire qui était posée sur la relation avec Asbab al-Nuzul. Et je pense qu'aujourd'hui, la volonté politique est soulignée plus ou moins dans justement le discours royal. Reste à savoir la volonté politique aussi des partis politiques et des autres institutions nationales qui sont
Au discours royal. Comment vous le comprenez, ce discours royal?
Alors, pour le discours royal,
moi, je le dis très clairement, je comprends que le roi ne peut pas changer quelque chose qui est établi par un texte coranique formel. Or, sur les questions justement sur lesquelles il y a débat depuis tout à l'heure entre vous et Mohamed Al-Lahlou, notamment.
Est-ce que le texte est formel?
Non, mais je
c'est-à-dire, est-ce que le texte est qata'i sur ce débat? Alors que même les textes qata'i, il y a un ijtihad.
Donc là, ce n'est pas un texte qata'i. Quand Dieu autorise la polygamie.
Qui dit que le texte est qata'i ou n'est pas qata'i? Les textes qui sont qata'i, ils sont très clairs. Et pourtant, il y a un ijtihad. Pourquoi on se maintient à des textes qui ont assez juti, même entre les ulamas, à des explications qui sont différentes, donc qui ne sont pas des textes qata'iyin, et pourtant on veut les rendre qata'iyin et on veut interdire le jihad fihum. Alors je me réfère pour l'explication justement de lan uhallila ma harrama Allah wa lan uharrima ma halala Allah. Je reviens et je dis mot pour mot la phrase de Asma al-Marabit. Parce que personne ne peut dire que les principes de Dieu sont des principes qui sont contre la justice, contre l'équité ou contre l'égalité. C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que justement, et je souligne le mot en arabe, maqasid, qui est justement l'humain, l'intégrité de l'humain, la dignité de l'humain, ou est-ce qu'on va rester justement pour dire ça nous convient, parce que c'est l'khrin qui nous reste?
Est-ce qu'on peut poser des questions là?
Alors, je vous laisserai interagir.
Les questions sont posées par l'animateur.
De toutes les manières.
Rien de méchant.
Je comprends bien, mais l'idée, c'est derrière ce débat.
Dynamiser un petit peu.
Je comprends que le débat est clivant, et en même temps, il va falloir juste que chacun puisse exprimer son avis, et surtout que les auditeurs puissent comprendre et entendre chacun d'entre vous. Mohamed Al-Lahlou, je vous laisse interagir avec ce qui a été dit, et juste après, je dois donner la parole à Islam Mamouni, donc je vous demanderai d'être le plus concis possible.
Alors, ma question, si on dit que les versets de Dieu ne peuvent pas être justes. Être injustes. Merci pour la reprise. Qui va nous définir la justice? Est-ce que c'est Asma al-Marabit?
Moi, je ne me suis pas référé qu'à Asma al-Marabit.
Voilà, ma question est épistémologique. Pourquoi? Je vais vous dire une chose.
La justice, est-ce que c'est les...
Le Coran, les savants.
Asma al-Marabit fait partie des savants, je pense.
Elle n'est pas dans le conseil supérieur des ulama. Non, elle n'est pas dans le conseil supérieur.
Elle est dans le conseil supérieur.
Regardez ce que ça provoque.
Non, mais c'est très intéressant parce que ça clarifie. Deuxième question, qui va nous définir les matins,
c'est par exemple... Vous enlevez la légitimité à Asma al-Marabit parce que c'est une femme, c'est ça?
Non, parce que les femmes n'ont pas le droit d'être des ulama. Non, ça, c'est l'argument souvent des féministes quand on est dans un débat et ils disent « oui, mais vous m'avez coupé la parole parce que je suis une femme ». Non, j'ai coupé la parole parce que c'est incohérent, donc c'est différent. Donc,
j'ai posé la question. La deuxième, non, peut-être les pour moi ou pour certains spectateurs.
Si on dit, si on dit qu'il y a l'ijtihad, il a été fait par Omar ibn Khattab, c'est ça que vous voulez dire quand il y a eu la famine, c'est ça, c'est ça que vous voulez dire. Déjà, la règle sur laquelle les savants sont d'accord, c'est l'ijtihad fi ma'udan. Donc, en fait, on ne fait pas d'ijtihad quand le texte est clair. Ça, c'est la première, et les savants sont d'accord sur ça. Donc, si on dit le contraire, on sort de la sphère de l'islam, on est dans une autre sphère que je ne saurais nommer.
Mais excusez-moi, donc, sur ce point, Mohamed Al-Lahlou, lorsque Yusra Berad nous dit il y a des textes qui sont formels et sur lesquels il y a eu un ijtihad, est-ce que vous, par exemple...
Non, il n'y en a pas.
Vous avez... Voilà.
Il n'y en a pas. C'est une utopie. Parce que l'histoire de Omar ibn Khattab, premièrement, d'abord... Point de vue chaîne de transmission, elle n'est pas authentique. Daïfa, la tathbout. Ensuite, ce qu'elle contient n'est pas contraire à la sharia. Parce que Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il a fait dans l'histoire qui n'est pas authentique? En fait, à cause de la famine, il a suspendu had sariqa pour les gens qui ont volé parce qu'il y avait la famine. Et il faut savoir que dans Usul al-Fiqh, l'application d'un jugement, elle se base sur la famine. Donc du coup, en fait, Omar ibn Khattab, il a appliqué le jugement de la sariqa. Ensuite, quand vous dites pourquoi sur riba et sur la finance,
répondre, ouais. Mais comment est-ce qu'on reconnaît un texte qata'i d'un autre qui ne le serait pas?
Le texte qata'i, c'est le texte qui n'admet pas plusieurs interprétations. C'est « Minhu ayatun muhkamatun umul kitab wa ukharum mutashabihat fa'amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ». Donc le texte qata'i, par exemple, « Fankihu ma taaba lakum min nisa' mathna wa thulatha wa ruba', », ça c'est qata'i. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire 10, ça ne veut pas dire 40, ça ne veut pas dire 56, ça veut dire 2 ou 3 ou 4. Ensuite, on dit, si vous avez peur de ne pas être juste, prenez-en une. Donc, si tu as peur de ne pas être juste, il faut en prendre une, tout simplement, pour appliquer le Coran. Ensuite, pour ceux qui en prennent plusieurs, le Coran, il nous dit, vous ne serez pas juste à 100%, comme c'est le cas pour nos enfants, d'ailleurs, on n'est pas juste à 100%, mais ne penchez pas d'un côté et vous laissez l'autre mu'allaqa. Donc, en fait, il faut respecter le Coran, parce que le jour du jugement, celui qui a deux femmes et qui s'est penché totalement pour l'une va venir shirkuhu. Yanni, tu connais le hadith, donc c'est très dangereux.
Lequel de vos enfants que vous préférez, c'est Talal Hilo?
C'est la première fois que j'entends ce texte de la polygamie.
Madame a dit quelque chose sur lequel je serais d'accord. C'est-à-dire que pourquoi sur Riba on permettrait d'avoir des législations et sur la question de la famille qui est quand même basée sur l'islam aussi, vu que la constitution stipule le Maroc est un pays musulman, pourquoi sur la finance? Eh bien, dites-vous que sur Riba, on est en train de revenir à l'islam. On a lancé les banques participatives. On a une nouvelle activité que le roi et que le Conseil supérieur de l'Ulama a prescrit comme étant conforme à la charia. Donc ça revient. On a été un pays colonisé. On a été colonisé pendant plusieurs décennies. Cette colonisation ne part pas comme ça sans laisser d'effet. Donc sur Riba, on est d'accord. Il faut effectivement mettre de côté Riba et donner des solutions de financement aux gens qui vont permettre...
C'est le seul point d'accord depuis tout à l'heure. C'est le seul point où vous êtes vraiment d'accord. Donc du coup, on ne va pas perdre de temps là-dessus. Rizal Mamouni, je vous laisse réagir par rapport toujours à la polygamie avant d'embrayer sur la tutelle et sur la filiation.
J'ai entendu plein de choses qui me font tomber des nues. Donc pour mon contradicteur, tous les savants, c'est en fait rien d'autre que le Conseil supérieur des ulama. Il a le monopole de la justice, il a beaucoup de monopoles et le texte sur la polygamie est nasqata'i et il n'y a pas de débat, alors que c'est très métaphorique. Qui peut décider de la justice, en fait? Nous, je vais prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça, je pense qu'il est temps. On n'est pas en opposition, en fait, avec le Coran ou l'islam. Tout ce qu'on dit, c'est que ça doit rester quelque chose de spirituel, quelque chose qui est pratiqué au sein de la famille et pas du tout par des lois. Parce que si on va jusqu'au bout,
bout de la logique, il nous faudrait aussi une loi qui ferme dès demain. Pourquoi attendre? Je ne comprends pas. Tout à coup, vous êtes très, très tolérant. Pourquoi attendre? Il faudrait fermer dès demain toutes les banques qui engrangent une grande partie du PIB marocain, quand même. Vous avez, dernièrement, les chiffres sont sortis aussi des impôts qui sont encaissés par l'État sur les ventes d'alcool et de tabac. Enfin, tout ça, c'est au Maroc. Pourquoi vous ne criez pas? Je ne vous entends pas hurler à la fermeture des banques et interdire et même pénaliser les taux la perception de taux d'intérêt. En tout cas, nous, pour obtenir les droits auxquels on croit et la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, on fait des actions, on milite, on va à la rencontre d'institutionnels, enfin, on fait des actions très, très concrètes et on ne s'en tient pas à des vœux pieux. Mais le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant doit être un principe très, très éloigné dans l'esprit de mon contradicteur, puisqu'il nous affirme qu'il différencie entre ses enfants. Donc, je repose la question, lequel vous préférez? Vous pouvez le dire à l'antenne, ça lui fera très, très plaisir sûrement. Non, nous, on rentre pas vraiment dans ces considérations-là. On pense que, en tout cas, la loi, aujourd'hui, impose aux femmes les mêmes devoirs que ceux qu'elle impose aux hommes, et il est temps qu'elle leur donne les mêmes droits. Moi, quand je vais payer mes impôts, que je vais faire mes courses, on ne me dit pas, là, vous allez payer que la moitié. Je paye la même chose que les hommes, au même taux, très exactement. On n'a pas une caisse nationale de la Réouema, à laquelle il n'y aurait que les hommes qui cotisent et qui verseraient une subvention aux femmes, qui paieraient la moitié de leurs impôts, etc. Donc, c'est pour ça que la religion, et on n'est pas contre la religion, au contraire, c'est la religion du pays, c'est la religion marocaine, mais ce n'est pas une religion d'État, c'est-à-dire que nos lois ne respectent pas, déjà pas, la religion islamique. Et en 2011... on a une nouvelle constitution qui réaffirme ce principe, qui affirme l'égalité homme-femme, qui affirme l'importance de la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et on a été 99% des Marocains à voter favorablement à cette constitution. Aucune de nos revendications, y compris celles qui tendent vers une égalité homme-femme en matière d'héritage, ne sont contraires aux constantes de la nation. Les constantes de la nation, c'est effectivement la religion islamique dans ce qu'elle a de principes généraux, d'orientation auxquels il faut tendre. Mais il y a aussi la Constitution et il y a aussi les droits humains. Et c'est cité dans le préambule et à plusieurs reprises dans cette Constitution même. Donc les constantes de la nation, c'est un bloc. Il n'y a pas que la religion islamique dedans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on revient aussi à l'inégalité en héritage, il y a deux choses. Il y a l'aniation, donc Tsaseb, qui n'est pas du tout cité dans le Coran, on y revient. Et il y a l'inégalité entre les frères et sœurs, qui est effectivement citée dans le Coran, mais il me semble, et là encore, c'est ouvert à débat, et l'opinion des uns et des autres est très importante. Il me semble que la condition de cette inégalité, elle est double. Elle est d'abord que ce partage ne se fait qu'après paiement des dettes, mais surtout après application du testament, l'wasiya, et que l'wasiya est citée 9 fois dans le Coran, et elle est instaurée comme un devoir pour les croyants, de laisser un testament pour les parents et les proches. Voilà, ça c'est une des conditions. L'autre condition, c'est la qiwama. On en parlait, c'est que le frère qui touche le double de sa sœur est obligé de la prendre en charge entièrement. Les femmes, effectivement, elles ne sont pas obligées de travailler. Elles sont censées être prises en charge toute leur vie par des hommes. Et je ferai cette citation de Qasim Amin qui dit que si jamais une religion avait jamais eu le pouvoir changer, de transformer nos sociétés, les femmes musulmanes seraient les reines du monde. Sauf que c'est des grands principes généraux qui sont posés comme ça, ils ne sont pas du tout appliqués. Parce que moi, dans la loi actuelle, rien ne me permet de les poursuivre mon frère, parce qu'il ne me paye pas mon loyer, ne me fait pas mon plein d'essence et ne me fait pas les courses à la fin du mois. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, la loi a échoué en fait à mettre en place pleinement ce système de Qiwama avec la Caisse nationale de la Qiwama dont je parlais tout à l'heure et qui justifierait peut-être, et qui, pas justifierait, mais qui restaurerait une forme d'égalité qui me semble voulue par les textes sacrés entre les hommes et les femmes, parce que si tu me prends en charge toute ma vie, à la limite, ce n'est que justice si tu hérites du double. La loi civile qu'on a aujourd'hui a transposé uniquement une partie de cette règle-là, qui est l'inégalité entre les hommes et les femmes. Elle a échoué à transposer tout le reste, comme elle a échoué à transposer beaucoup de choses dans l'islam, parce que le Maroc a suivi finalement une évolution qui est la sienne, qui est l'émancipation, qui est une émancipation économique, une émancipation dans la vie civile, une émancipation juridique aussi, et qui tend à laisser à l'islam la place qui est la sienne, c'est-à-dire dans le cœur des gens et dans la foi. Et seul Dieu peut juger la foi des gens, seul Dieu peut juger si quelqu'un est juste ou pas. Il est, à mon sens, contraire à la lettre des textes de laisser ça à un juge, de dire un juge va juger à un instant T si toi tu es apte à être juste entre deux épouses tout le reste de la vie, de ta vie pour les 30 ans à venir. C'est un non-sens absolu. Donc laissons le sacré et la foi à la place qu'ils méritent et qui leur est légitime, c'est dans le cœur des individus, et laissons à la loi le soin d'instaurer aussi les choix démocratiques qu'a fait notre pays et les avancées, le choix de s'inscrire dans les droits humains universels. Il ne s'agit pas de mimer l'Occident, il s'agit de principes universels. Et si tout cela ne plaît pas, mais encore une fois, revenons à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Non, toutes mais moi, j'étais sur l'héritage. Vous
l'héritage, c'est un problème pour l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est un problème que les enfants, qu'il y ait une inégalité entre les frères et les sœurs, sachant que le frère ne prendra pas en charge sa sœur. C'est une paupérisation.
Qu'est-ce que vous avez envie de répondre aux personnes qui vous disent il y a un texte aujourd'hui qui est un texte coranique, formel, sur cette question de l'héritage, et on ne peut pas aller à contresens du texte sacré.
Je dis, le problème, c'est que c'est l'amoudouana actuel qui contrevient à ce texte sacré. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que nos revendications se rapprochent plus du texte sacré que ne l'est la Moudouana actuelle, parce que la Moudouana actuelle a transposé la moitié de la règle. Louaylou lil moussallin, et point, comme on dit. Elle a transposé que la moitié de la règle. Sa lettre est contraire vraiment à la lettre de l'islam en matière de testament, parce qu'aujourd'hui, la Moudouana nous dit la wasiyat li warith. On ne peut pas laisser de testament à ses enfants parce qu'ils sont susceptibles d'hériter. Et deuxième frein, on ne peut laisser de testament qu'à hauteur de 30% de son patrimoine. Donc, une des revendications, c'est déjà d'ouvrir le testament, parce que rien dans le Coran ne nous interdit de laisser un testament à ses enfants. Et c'est une manière et un outil de rétablir cette égalité qui nous est ôté par ces savants, par les rédacteurs de la Moudouana. Et la Moudouana actuelle, la règle de l'héritage dans la Moudouana actuelle contrevient au texte sacré doublement. La première raison, je viens de la citer. La deuxième raison, c'est qu'il n'y a rien dans la loi qui instaure le principe de la kriwama, qui me permet de poursuivre mon frère, qui touche le double de ma part, pour qu'il subvienne à mes besoins.
Le point est clair, Zineb Benrahmoun.
Et avant qu'on prenne la parole avec cette campagne-là, jusqu'à présent, les seules conversations qu'on a pu récolter sur les réseaux sociaux, c'est des conversations hyper virulentes, hyper négatives, avec ce climat très négatif vis-à-vis de la Moudawana, avec notamment des gens qui disent oui, ça va empêcher qu'il y ait plus de mariages dans la société marocaine, etc. Ce genre, finalement, d'idées reçues qui ne sont pas forcément avérées. Et donc, on n'avait que ce climat très négatif et porté justement par des groupuscules, encore une fois, c'est-à-dire qu'ils sont très peu nombreux, mais parce qu'ils sont très virulents, on a l'impression qu'ils sont très nombreux. Par contre, ce que je peux dire sur les réseaux sociaux, en effet, il y a des groupes virulents qui se saisissent de cette thématique justement pour déverser, j'ai envie de dire, leur idéologie extrémiste. Je veux dire, la grande majorité des personnes qui sont comme moi, qui ont des opinions, elles justement ne prennent pas la parole par peur de représailles de ces groupuscules-là. Donc non, le monde n'est pas c'est pas binaire, c'est pas noir ou blanc, c'est pas manichéen, c'est pas conservateur contre progressiste. Il y a des nuances, il y a juste une société en fait qui a envie d'avoir une Moudawana plus équilibrée. Donc je reviens sur ce que vous disiez au départ, c'est pas une Moudawana pour les femmes, c'est pas une campagne pour les femmes, c'est une campagne pour l'ensemble de la société marocaine, hommes et femmes, et justement l'idée de cette campagne, c'est qu'il puisse y avoir un débat, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est pour débattre, et c'est essentiel dans nos sociétés pour permettre à chacun soit de consolider ses opinions tout en les nuançant à travers donc de la conversation. Donc voilà, pour moi c'est ce qui va permettre d'éviter les extrêmes que j'estime être très dangereux pour tout type de société.
Mohamed Al-Lahlou, économiste, a l'idée justement, et après avoir entendu pratiquement ce que pense, vous le direz aussi Yusra Barat dans un instant, mais on a écouté Zineb Benrahmoun, on a écouté Rizane Mamouni sur la question de l'héritage, on a l'impression que il y a une égalité qui devrait éventuellement se mettre en place sur cette question-là. Est-ce que si cela advenait, ça serait en contradiction avec les textes sacrés et ça voudrait dire qu'on laisse de côté le référentiel religieux qui est un référentiel acté au niveau donc de la Constitution, pour vous en tout cas, Mohamed Talal Lahlou?
Inévitablement et factuellement. Et je vais m'expliquer. D'abord, quand on dit que effectivement dans la société il y a des franges conservatrices, des franges progressistes, ça c'est une caractéristique de l'ensemble des sociétés. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'au Maroc, par exemple, quand on fait des sondages, et donc les statistiques sont des choses qui parlent quand même un petit peu, on a 89% des Marocains qui sont contre l'abolition de l'article 489 et 490. Donc la frange de la société qui représente la société, c'est celle-là, si on veut parler démocratie, plus que 51%. Donc à partir de là, on a une frange de la société qui, justement, n'est pas dans cette lecture, parce que cette lecture, qu'est-ce qu'elle nous dit ? La religion, c'est spirituel, donc une sorte de laïcisation et d'écartement de la religion de la sphère politique, de la sphère juridique, de la sphère économique et de la sphère sociale. Donc cette laïcité, bien entendu, cette lecture laïque de la religion, c'est quelque chose qui n'est bien entendu pas conforme à l'islam, dans la mesure où l'islam, il s'implique dans les questions d'économie, comme le riba, dans les questions sociales, comme le mariage, dans les questions politiques, comme la shura, dans un certain nombre de questions qui sont dans la sphère publique, et pas du tout la sphère privée. L'islam et toutes les religions, bien entendu, monothéistes bien avant, ou toutes les charias monothéistes, ne sont pas des religions laïques et séculaires. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Hassan II qui disait dans sa fameuse phrase, à partir du moment où on est laïque, on n'est plus musulman. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que la laïcité suppose que toutes les lois de l'islam qui concernent la société, le mariage, l'économie, la politique, la gestion de la chose publique, alors que le Coran est clair sur ça. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Et par ton Dieu, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils te fassent juger dans les affaires dans lesquelles ils ont un différent. Donc là, on parle de la sphère publique, de la place publique. C'est pour ça que le prophète était juge, que les califes ont été juges, que les rois ont tranché les affaires publiques, etc. Donc, par contre, je sens un faisceau de lumière dans ce qui a été dit. C'est quand on dit qu'effectivement, il faudrait une sorte de... juste pour finir sur la question de la laïcité, quand on cite Qasem Amin, c'est quelqu'un qui a été envoyé par l'Égypte pour justement un petit peu comprendre la civilisation occidentale et pourquoi certains pays musulmans ont été en retard. On avait beaucoup de savants qui étaient envoyés, d'ingénieurs, d'économistes qui ont été envoyés, et chacun a ramené dans son pays la partie progrès économique, technologique, comme par exemple l'ère Meiji au Japon. C'était des ingénieurs qui ont été envoyés en Allemagne pour voir d'où venait le progrès. Mais Qasem Amin, c'est quelqu'un qui est allé en Europe, il nous a apporté ni découverte, ni brevet, ni invention technologique. Il est revenu dans ces pays musulmans lutter pour, soi-disant, la cause de la femme. Donc quand on dit la caisse nationale de la Qiyawama, là j'aurais tendance à être d'accord. Parce que dans la mesure où effectivement l'islam c'est une vision globale de la société, eh bien effectivement si on prend une partie des avantages, par exemple la femme prend une partie des avantages qui sont le mahr, la nafaka, la muta, l'habitat, la nafaka pour les enfants, etc., etc., et tous ces avantages, le hadana pour les enfants, etc., mais que la contrepartie n'est pas là, on crée une injustice. Donc en fait, ce qu'il faut appliquer, c'est effectivement l'ensemble de la vision pour que cette manifestation de justice soit là. Mais la justice, ce n'est pas ce qu'on pense, nous, au XXIe siècle. La justice, c'est ce que donnent les textes. Et donc, s'il y a injustice dans la pratique, ce n'est pas parce que les textes sont injustes, mais c'est parce qu'on les applique mal. Ensuite, ce que je voulais dire par rapport à cette question de l'héritage...
Excusez-moi, mais si on les applique mal, c'est peut-être qu'il y a aussi rupture du contrat, pratiquement, qui nous lie. En tout cas, pour certains, ça pourrait être compris comme ça.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que si on ne respecte pas l'ensemble et l'intégralité de ce que prévoit la religion, à un moment donné, il y a comme une sorte de divorce. C'est un peu comme dans un contrat de travail.
C'est pour ça que Hassan II a dit...
C'est des clauses substantielles du contrat social au Maroc ou dans des pays musulmans.
Justement, c'est pour ça que l'islam est religion d'État, que c'est la constante, et que Hassan II a dit quand on est laïque, on n'est plus musulman. Parce que quand on est laïque, on prend 50% ou la 20% de la religion et on laisse 50% ou la 80% de la religion. Et ça, justement, ça nous fait sortir de cette sphère. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la question du référentiel. Est-ce que, et je n'ai toujours pas eu de réponse à cette question, est-ce qu'autour de la table, on est d'accord que le Coran et la charia islamique est au-dessus de ces lois qu'on va changer toutes les 10-20 années au gré de ce qui a été nommé comme étant la société fluide. Et la société fluide, c'est l'une des meilleures manifestations de la société postmoderne qui implique de la philosophie postmoderne, notamment constructiviste, Derrida, Foucault, etc., qui nous montre bien qu'en réalité, dans ce monde, il n'y a ni bon ni mauvais, il n'y a pas de vrai ou de faux, il n'y a que des opinions, il n'y a que des avis, il n'y a pas de réalité intrinsèque qui serait un référentiel. Et donc, vu qu'il n'y a que des avis et il n'y a pas de bon ou de mauvais en soi, eh bien, toutes ces opinions sont des choses à respecter. Et donc, on est dans le libéralisme total, dans le sécularisme et la laïcité totale. Ça, bien entendu, ce n'est pas en conformité avec notre religion, parce qu'elle est au-dessus et qu'elle nous donne un certain nombre de réalités. Quant à la question des enfants, je suis désolé, si quelqu'un autour de la table est capable de me dire que j'ai exactement les mêmes comportements, le même amour et les mêmes gestes avec tous mes enfants, je lui tire mon chapeau, parce que ça, c'est une impossibilité physique. Donc, ce n'est pas de l'inégalité de droit que je parle de l'inégalité de comportement. Et donc, à partir de là, bien entendu qu'on a une inégalité, que ce soit vis-à-vis des parents, que ce soit vis-à-vis des enfants, que ce soit vis-à-vis de toutes les... même de nos amis, on a une inégalité. C'est normal, on n'est pas des robots. Mais par contre, ce qui est répréhendé, c'est le fait de volontairement mettre en place une préférence, volontairement instituer une inégalité. Ça, ce n'est pas bon. Et donc, pour éviter de surfer tout le temps, il faut qu'on dise, est-ce qu'on est féministe ou bien on est musulman ?
Mohamed Al-Lahlou, en quelques secondes, vous avez cité tout à l'heure une statistique, 91%. Est-ce que vous pouvez partager avec nous la source de ces
91%
89%.
Si ma mémoire est bonne, c'est le journal L'Économiste. J'avais eu un débat d'ailleurs avec Panora Post. Oui. Et donc, on avait sorti ces statistiques. Parce que le débat, c'était justement l'article 489-490.
Et donc, la source ?
Ah, la source, ça fait longtemps, le débat, ça fait plusieurs années, mais elle est là, la source.
Je voulais réagir sur ça, sur ce chiffre de 89%, parce que c'était un chiffre, en effet, qu'on avait trouvé dans nos recherches. Il faut faire très attention avec ce genre de chiffres, déjà parce que, en fait, je veux dire, l'étude, elle a énormément de biais, l'échantillonnage, il n'est pas forcément bon, la méthodologie également.
Donc les statisticiens qui l'ont fait sont mauvais.
Non, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut faire attention à la source, justement, que vous n'avez pas, et de se renseigner sur la méthodologie qui a été adoptée, justement, pour sortir cette data-là. C'est extrêmement important. Il faut savoir que quand on fait des études, ce type de sondage-là, il y a pas mal de biais cognitifs, justement, qui rentrent en compte. Et si la méthodologie n'est pas bonne, le résultat n'est pas bon.
Pour
toutes les statistiques. Et en fait, justement, vis-à-vis de ce chiffre-là, en particulier... nous, on pense quand même que ce chiffre est assez louche, je veux dire, quand même, 89%.
Donc vous remettez en cause, vous, ce chiffre-là.
Oui, parce que la méthodologie...
Vous avez donc la méthodologie que vous contestez ?
Non, je disais juste qu'en fait, il faut se renseigner par rapport à la méthodologie
et
qui a été... non, justement, c'est ce que je disais, c'est qu'on n'a pas, justement, normalement, c'est publié avec la méthodologie qui est associée. Là, ça n'a pas été le cas. Et donc, il y a un flou autour de ce chiffre-là. Il y a un manque de transparence sur l'origine de ce chiffre. C'est bien ça que j'essaie de...
Vous avez pointé du doigt. Youssal Balad, consultant Jean, je vous laisse réagir très rapidement à cette question de l'héritage avant de basculer sur le mariage des mineurs et d'autres sujets aussi qu'on doit aussi pouvoir débattre aujourd'hui. Youssal Balad.
Oui, alors, justement, avant de réagir sur la question de l'héritage, et je pense que cette fois, c'est-à-dire ma réaction sera en deux parties. Une partie qui, justement, rentre dans le débat que nous avions depuis tout à l'heure, et une autre partie qui rejoint Zineb et qui parle de la pratique de la société marocaine et des pratiques de la société marocaine aujourd'hui. Alors, avant de réagir, je voulais juste dire que je pense que la thématique d'aujourd'hui, c'est la moudouana, faire venir des articles du code pénal dans ce débat, parce qu'on avait parlé de certains articles avec les chiffres qui étaient apportés du code pénal. C'est aussi, je pense, un autre débat qu'il faut avoir, parce que oui, les législations ont des relations entre elles, mais c'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui on parle de ces relations dans une vision macro, ou est-ce qu'on est sur la moudouana? Il y a aussi que nous avons une institution officielle pour les statistiques, qui est le ACP, le Haut Commissariat au Plan. Et donc, discuter des statistiques sans évoquer la source, ni connaître la source, justement,
Zineb a parlé de méthodologie, c'est tout à fait normal parce qu'on veut savoir la source pour justement connaître s'il y a une méthodologie ou il n'y a pas de méthodologie. Alors, juste pour revenir le débat, l'héritage. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de Tawabit au sein de la Constitution. Alors, le mot m'échappe en français.
Les constantes
de la nation.
Voilà, les constantes de la nation. Les constantes de la nation, moi, je les ai sous les yeux. 104.
D'accord.
J'aimerais bien les rappeler. Ouais. Alors, la première, c'est « Ad-din al-islami al-samih ». C'est comme ça que c'est écrit, dans la version arabe, du moins. « Ad-din al-islami al-samih ». Deuxième, « Al-wahda al-wataniya », attention. متعددات الروافد 3 الملكية الدستورية 4 الاختيار الديمقراطي qu'on a tendance à oublier. Donc ces quatre déjà pour la religion et je dirais musulmane pas islamique pour la religion musulmane c'est écrit noir sur blanc الدين الإسلامي السمح. C'est-à-dire qu'il y a déjà un référentiel qui est écrit. Dans le contexte de Shihad, et dans le contexte de Majlis al-Ulama, et dans le contexte de Al-Malakiya, Al-Dusturiya ou Al-Khtiyar Démocraté, qui instaure des institutions. État d'institution. Donc c'est déjà dans ce sens, parce qu'on parle de constante, on parle de constante, sans dire pour autant c'est quoi ces constantes. Et justement, ces constantes, ils parlent de Samh. Et ils parlent d'institutions à côté, qui justement, rentrent dans cette vision. Mais non. Revenons à la question de l'héritage, toujours sur ce volet-là. Alors, égalité de comportement ou possibilité de l'humain d'être juste ou de ne pas être juste, je pense que ce n'est pas la question. C'est un débat qui est très beau, qui est très joli, qu'on peut avoir. C'est un débat très philosophique, très comportemental. C'est très beau, mais on est en train de parler de législation, de loi qui va régler les questions de société et de famille au sein de la société pendant une vingtaine, voire plus ou moins d'années. Et donc, ce n'est pas les penchants individuels ou le comportement individuel qu'on remet en question. Mais c'est comment résoudre le problème. On n'est pas là, la loi n'est pas là pour dire aux personnes quoi faire et quoi ne pas faire dans leur comportement, mais elle est là pour résoudre les problèmes quand il y a conflit. C'est-à-dire au sein du mariage, au sein de la famille, parce que c'est une loi, en tous les cas, qui lie famille au mariage, au sein de la famille, c'est quand il y a conflit qu'on revient à la moudouana, pas autrement. Et donc, quand il y a conflit, c'est tout à fait normal qu'on vient pour avoir une loi, et oui, qui est juste. Parce que ce qui est juste est très clair. Et pas un seul référentiel ou deux référentiels qui ont les notions de justice ou qui l'ont pas. Donc, revenons à l'héritage dans cette même...
cette approche ou cette philosophie.
Voilà, dans cette même approche. Alors pour l'héritage, Rizlen en a parlé justement de la réalité, ce qui se passe dans la réalité. On a justement des devoirs qui sont égaux, on paye des taxes de manière égale. Et aujourd'hui, d'ailleurs, en parlant de Qatay ou ne pas Qatay, on a appris depuis notre jeune âge, Flumawarit, c'est que il y a... la wasiya sali warit. Et c'est des paroles qui sont dites aujourd'hui, qui s'en remettent en question par les mêmes personnes qui les défendaient en 2004. Hein. Les mêmes personnes qui défendaient la wasiya sali warit aujourd'hui remettent en question la wasiya sali warit. Et donc, l'wasiya, je pense que c'est un débat qui est assez avancé. Maintenant, je vais parler de pratiquement, réellement, ce qui se passe. Aujourd'hui, on a des cas, et je vais parler de cas réels. De cas de fillette de 12 ans, avec sa sœur de 9 ans,
qui vivaient avec leurs deux parents dans une maison où il y a un snack en bas. La maison et le snack sont au nom du papa. Le papa, sa maman était morte à jeune âge. Et son père l'a mis dans la rue, il s'est remarié et il a eu deux autres enfants que le papa ne connaît pas parce qu'il a grandi dans la rue. Il a fait sa vie avec cette femme depuis zéro, de rien du tout. Ils ont une maison, un snack, c'est la femme qui cuisine chaque jour pour ce snack. Et c'est le père qui vend. Le père est mort. Dans ce cas-là, je me disais, les mêmes, les oncles, que ces fillettes ne connaissent même pas, et que cette femme qui a bâti avec cet homme, avec le snack et la maison, et on va venir faire venir deux inconnus qui sont des oncles, est-ce que c'est juste?
Mais qu'est-ce que vous
pouvez répondre? Je ne parle ni de référentiel, ni de rien du tout.
Ah non, mais c'est quand même
c'est
le référentiel.
Tassib.
Non, mais...
C'est la règle de Tassib.
Est-ce que, la
est-ce
règle
que
de Tassib...
c'est juste dans non. ce cas? C'est-à-dire, moi, je suis une personne lambda, dans Zineb en parler. J'ai dit que dans cette deuxième partie, je vais parler de pratique. Je suis une personne qui ne connaît rien. C'est-à-dire, je suis une femme lambda, un être humain lambda. On vient me raconter cette histoire. Et on me dit, est-ce que c'est juste?
Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pertinent?
Alors, comme choix, je ouais. dirais une autre. Je suis désolée que je tiens
alors,
à souligner...
Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Hein. On
parce
est en train d'éborder.
Il y a Tassib, il y a l'Oisiya, mais il y a aussi un autre cas dans l'égalité, dans le même degré de parenté. C'est-à-dire entre les frères et sœurs. Il y a un autre cas. Et c'est aussi un cas réel. C'est une femme, elle est sortie de mettre flouzinette. Et donc, elle travaille dans les usines. Son papa, quand nous s'écline dans les bidonvilles, jette le sifadin, ils ont pris une terre et la terre était au nom du père. Le père, à un certain moment, était muqad. Il a eu un accident. Et donc, c'est la fille, avec son travail, elle a un frère moins âgé. C'est elle qui a éduqué le frère. C'est elle qui a construit une maison avec son travail dans les usines. C'est elle qui a pris soin, le soin, le bir bil walidain. C'est elle qui a pris soin de son père. Le frère, entre-temps, est devenu délinquant. Il était en prison et autre chose. Le père est décédé. Les dakarimit li haddul untayin. C'est-à-dire, après tout ça, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est correct?
Très bien. Mohamed Talal Hlou, économiste, je vous laisse réagir justement à ce que vient de dire Youssef El-Barad, consultant de genre.
J'aimerais rassurer.
Et membre de la Fédération des Ligues des Droits des Femmes.
J'aimerais rassurer Madame Youssef que il y a une solution. Il y a beaucoup de solutions même. Et il faut juste partir d'une règle, c'est l'humilité. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on n'est pas au courant que la solution existe, qu'elle n'existe pas. Donc, en fait, déjà, je reviens sur un point. Les droits universels. Qui a décrété qu'ils sont universels? C'est le colon. Deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, effectivement, les anecdotes sont des choses qui sont parfois choquantes à l'échelle individuelle, mais on ne construit pas des règles sur des anecdotes. Les anecdotes, c'est fait pour faire un roman, un film,
donc,
etc.
Le vécu des femmes au Maroc, c'est des anecdotes.
Pas du tout. Il y a même des hommes qui
la
vivent des anecdotes. Il n'y a pas
des
les
femmes
qui
au Maroc, c'est des anecdotes.
Même les hommes qui souffrent, c'est des anecdotes, effectivement. Donc les femmes souffrent, les hommes souffrent, les pauvres souffrent. La pauvreté ne connaît pas de sexe. Elle s'applique sur les hommes et sur les femmes. Donc le problème quand on a un paradigme féministe, c'est qu'on essaie d'essentialiser toutes les problématiques et les ramener au féminisme. Ça, c'est une sorte d'extrémisme idéologique, parce que en réalité, les problèmes socio-économiques sont multiformes et multipolaires. Ils ont plusieurs causes et plusieurs conséquences. Deuxième chose sur l'oncle. Bien entendu que le tarseb est dans le Coran et dans la Sunna. Dans le Coran, c'est-à-dire qu'en réalité, le reste, si elle prend juste 25%, le reste, c'est akhraba assez. Mais maintenant, il faut voir la globalité du système. La fluidité, elle est là, et la société postmoderne est là pour disloquer la famille, et on le voit en Europe, et c'est là où on va. Par contre, l'islam est là pour ramener la famille et regrouper les familles. Et donc, les oncles, s'ils s'éloignent, l'islam est là pour les ramener. Et donc, si l'oncle ne fait pas son devoir de nafaka, on doit demander à la justice de lui imposer de faire le rôle de nafaka. Et s'il ne le fait pas, on doit lui appliquer cette règle, et non pas enlever
donc,
la charia.
Dans la règle
donc, à partir de là...
C'est-à-dire que mes droits ne sont pas là juste non, parce que j'ai la capacité, parce que la loi et les institutions dont me consacrent mes droits selon mon travail, mais je suis toujours dans le mantak d'Yel Saïa ou d'Yel
Mina. Le point est clair.
Ça, c'est un autre biais féministe qui pense que la nafaka, c'est un don, c'est une minna, alors que l'islam l'impose. C'est une obligation sur le mari et c'est une exemption pour la femme. Donc, en réalité, vu que nous, on travaille tous pour avoir une retraite, pour avoir un petit peu de revenus sans se fatiguer, eh bien, l'islam, il donne droit à la femme, ça, à partir de sa première année, bizarrement. Donc, en réalité, ce n'est pas une minna, c'est une obligation, c'est une contrainte qui pèse sur les épaules de l'homme. Les oncles, s'ils ne remplissent pas leur rôle, eh bien, la justice doit leur imposer. On ne doit pas annuler l'islam parce qu'il y a des oncles qui ne remplissent pas leur rôle, bien entendu. Ça serait « Dawini billati kanati yadda'u ». Ensuite, quand on dit, c'est-à-dire quand on dit sortir du cadre, là, ça me fait peur, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais le sondage de 89%, j'ai cherché, c'est l'économiste, on ne va pas dire que l'économiste est un journal islamiste, et Synergia, qui est un institut de sondage qui travaille dans les études d'opinion et les sondages depuis 1989. Donc si les statisticiens ne savent pas faire l'epsilon d'erreur, l'échantillonnage représentatif, ça on le fait juste dans un doctorat. Donc pas besoin d'un sondage d'opinion. Donc les sondages d'opinion, ils font ça tous les jours. Donc la méthodologie, elle est là. Donc pour finir et pour clore, ce que j'aimerais, c'est vraiment que les personnes qui sont autour de la table prennent conscience que surfer entre les idéologies, ça ne marche pas parce que ça nous donne les finalités qu'on a en Europe. Plus de zina, plus d'enfants hors du mariage. 60% des enfants en France sont nés hors mariage, plus de 50% de divorces. Le célibat qui explose, le suicide qui explose. La vente des antidépresseurs est multipliée par 7 entre 2000 et 2020 aux États-Unis. Donc les gens sont moins heureux, ils sont plus crispés, plus dépressifs. On a un mépris de la famille et de la place de la mère. Alors que l'islam, justement, protège ces éléments. Et sur la question de des constantes, j'étais très heureux de les entendre, parce que la première, c'est l'islam al-sam'h. Donc, l'islam est sam'h. C'est comme si on disait l'islam al-adil, ou l'islam, une caractéristique intrinsèque. Donc, sam'h, c'est juste une caractéristique qui est à la base dans l'islam. Et donc, en réalité, il faut faire... donc l'islam peut être injuste.
Je sais pas, mais...
Moi, je sais jamais. Malheureusement, ça montre que, quand même, il faut voir un petit peu plus loin. Il faut savoir que c'est pas parce que vous ne savez pas qu'il y a des solutions, qu'elles n'existent pas. On est dans un système qui est juste, qui offre des solutions à tout cela. Mais le problème, c'est que vu qu'on ne l'a pas étudié, on ne le connaît pas, eh bien, on pense trouver la justice ailleurs. Ça, c'est simplement une manifestation d'ignorance. Ayons l'humilité pour dire que on a un système qui a régi des sociétés pendant 13 siècles, qui a résolu des problématiques sur lesquelles aujourd'hui on n'a pas de solution. On a de plus en plus de harcèlement, on a de plus en plus de fluidité dans la société, de plus en plus d'inégalités. Revoyez les statistiques de Oxfam. On a des sociétés qui s'orientent, suite à l'ensemble de ces mouvements féministes, vers de plus en plus de dépression, de moins en moins de mariages. La fécondité dans les villes est tombée en dessous de 1,9. Le féminisme menace le Maroc. Le Maroc n'a pas son renouvellement générationnel dans les villes. On est à 1,9 de fécondité. Le taux de renouvellement générationnel, c'est 2,1. Donc le féminisme est en train de tuer le Maroc. Alors, à petit feu avec des fonds étrangers. Non, je peux vous le démontrer dans un prochain débat, Inch'Allah. Mais ce que je veux dire, c'est que les financements qui nous viennent de pays européens, de fondations, de sociétés capitalistes, en général, parce que madame n'a pas pu dire est-ce qu'elle reçoit ou pas des financements venant d'Europe, mais ce que je peux dire, moi j'ai les documents qui le montrent, ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, si on appliquait cette caisse nationale de l'Arkiwama et si on revenait à la vision globalisante de la chose, on aurait beaucoup plus de justice et on aurait beaucoup moins d'anecdotes qui vous font souffrir, enfin, dans votre réflexion. Et donc, en face de ce que disent l'ensemble des ulamas, ce que dit le Coran et la Sunna, on a des discours libéraux, féministes, et qui appellent à sortir du cadre. Enfin...